à toutes et à tous et bienvenue dans la revue de presse chrétienne de Radio Grand Ciel. À mes côtés pour explorer les dernières parutions en kiosque, Liliane Dazin pour la partie spirituelle. Bonjour Liliane.
Bonjour Émilie.
Et Simon Martin qui lui donne dans l'actualité. Bonjour Simon.
Bonjour Émilie, bonjour Liliane.
Voilà donc le programme que nous refermerons en parlant un peu culture, comme d'habitude. Alors Liliane, nous ouvrons ce quart d'heure avec le contenu spirituel des revues que vous avez sélectionnées. Et aujourd'hui, un beau tour d'horizon. On commence par le pèlerin, me semble-t-il.
C'est ça. Toutes les semaines, il y a une méditation sur une peinture. Et cette fois-ci, c'est assez original parce qu'il s'agit de peinture du Tassili. C'est une région de l'Algérie. On a retrouvé des fresques et des gravures. Il y a eu un gros travail pour faire ressortir. Les peintures, les couleurs sont magnifiques. Ces œuvres datent d'environ 10 000 ans. Et les artistes de la préhistoire donc, nous ont légué par leur art le souvenir de leur existence. Peut-être, dit-on, pour demander protection aux divinités locales. Et puis, il y a toujours le cahier qui est inséré, qui comporte les textes des maîtres du dimanche du mois de février. Mais c'est très spécial parce que cette fois-ci, ce sont des textes médités par les aumôniers d'hôpitaux de Mulhouse.
Très bien.
Voilà pour le pèlerin.
Dans la vie, il est question notamment du Mont Saint-Odile.
C'est ça, parce qu'on allait fêter un grand jubilé. En 2020, malheureusement, vous savez bien ce qui s'est passé. Donc, ce Mont Saint-Odile, qui est un haut lieu de l'adoration, vous savez que c'est la patronne de l'Alsace, elle est morte il y a 1300 ans. Alors, on devait fêter ça en 2020. Il devait y avoir un grand jubilé. Bon, et puis, on n'a pas pu. Alors, pour l'instant, on peut faire un jubilé individuel. Alors, il y a des petites stations réparties dans le monastère, parce que la sainte a toujours suscité les sœurs. Vraiment, elle leur a demandé d'approfondir leur connaissance du Christ par la prière. Alors, les fidèles prient à différents endroits qui sont disséminés dans le monastère, par exemple devant la porte qui mène à son tombeau. Il y a tout un parcours, et le parcours s'achève à la chapelle des larmes pour l'étape du pardon et de la réconciliation. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez faire allumer un cierge ou confier à la communauté une prière pour un événement quelconque. Sur www.mont-sainte-odile.com et toujours l'encart des essentiels.
Très bien, et nous passons à la croix l'hebdo que nous aimons beaucoup dans la revue de presse. Il est notamment question des Ouïghours, mais pas seulement.
Oui, c'est ça, à lire le bloc-notes de Frédéric Boyer, un écrivain qui nous parle de son expérience. Alors qu'il séjournait au monastère de Landévennec dans le Finistère, il voulait y finir sa thèse qui s'intitule La Bible, qui s'intitulait, c'est passé, La Bible et Dostoïevski. Et il dit que Dieu se révèle où il est le moins attendu. Puis lui, ce jour-là, il y avait Dieu qui errait dans les bateaux défoncés et ensablés sur la plage où il se promenait. Et puis un témoignage bouleversant sur les persécutions que subissent les Ouïghours en Chine. Cette minorité musulmane est vouée au génocide à cause de leur religion. Et pour Pékin, tout est bon pour les mater.
Et on termine ce tour d'horizon avec le mensuel Panorama.
C'est ça. Donc il y a un entretien avec Léa Salamé, une journaliste de France Inter, qui vient de faire paraître un livre sur les femmes puissantes. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Elle nous dit que sa foi, je rappelle qu'elle est libanaise, sa foi a toujours été un refuge, un moteur et une consolation. Et s'il lui arrive quelque chose de bien, elle est persuadée que c'est Dieu qui le lui a donné. Et si c'est quelque chose de mal, elle lui demande quel message il veut lui transmettre de cette façon-là. Alors elle dit qu'elle aime beaucoup se ressourcer dans des lieux particuliers, à Saint-Julien-le-Pauvre, à Paris. Donc c'est une église grecque melkite catholique. Et c'est son rite à elle. Et puis à Saint-Séverin, aussi à la chapelle de la Médaille Miraculeuse, une rencontre vraiment intéressante que je vous conseille de lire. Voilà.
Merci beaucoup Liliane. L'actualité du moment à présent, vue par vos revues chrétiennes, c'est avec Simon, et notamment pioché dans La Vie et La Croix l'Hebdo.
Alors, je commence par le cahier Espérance qui ouvre l'hebdomadaire La Vie. Que trouve-t-on dans ce cahier ? Eh bien, une image, une parole et surtout de belles initiatives. À commencer par ces médecins qui témoignent et documentent la crise sanitaire sur les réseaux sociaux. On y trouve le témoignage d'un urgentiste des Vosges, François-Xavier Moronval, qui raconte À titre professionnel et personnel, je sais ce que signifie la fragilité de la vie. Je passe des messages médicaux toujours bienveillants. Fin de citation. Après la santé et l'éducation, la vie met l'accent sur les frères de l'instruction chrétienne qui ont ouvert il y a déjà 7 ans une maison pour les jeunes qui sont exclus de l'école. C'est à Saint-Brieuc. Et à La Rochelle, cette fois, c'est une initiative pour briser le cercle de l'isolement qui a été lancée par le centre social Christiane Faure. Cela s'appelle La Grande Oreille et cela consiste en un service d'écoute téléphonique. Voilà un cahier qui porte bien son nom à retrouver dans l'hebdomadaire La Vie de cette semaine. Un sujet écologie maintenant, sujet qui revient régulièrement dans nos hebdomadaires chrétiens, s'il en est. Une prise de conscience de plus en plus aiguë. Alors, La Croix l'Hebdo, nous propose un dossier sur le campus de la transition, sous la forme d'une conversation avec sa directrice actuelle, Cécile Renoir, religieuse de l'Assomption et bardée de diplômes, théologie, philosophie, sciences politiques et même commerce à l'ESSEC. Elle présente donc ce campus de la transition comme, je cite, un lieu pour expérimenter la transition écologique et former des jeunes qui ne soient pas hors sol, entendez, issus des grandes écoles parisiennes, là c'est moi qui le rajoute. Alors c'est en Seine-et-Marne, au domaine de la Forge, dans un château du 18e, que l'école est implantée. Les étudiants y vivent en collectivité, dans une logique de sobriété heureuse. Ce sont eux-mêmes qui font les travaux, l'isolation par exemple, et ils cultivent un potager. Là-bas, tout le monde est végétarien, et le potager est cultivé en permaculture, évidemment. Un endroit qui n'est pas confessionnel, mais alors là je cite de nouveau Cécile Renoir, on travaille ici pour une œuvre qui nous dépasse et nous mobilise ensemble, et c'est ce qui nous aide à vivre des choses plus difficiles. Quand on se sent porté, les renoncements ne sont pas des sacrifices. Fin de citation. Cécile Renoir milite donc pour une grande transition écologique auprès des universités, pour créer un socle commun de connaissances et de compétences, mais aussi auprès des grandes entreprises et des politiques. Un message plein d'optimisme qui lui fait conclure en disant qu'elle avait découvert au campus un potentiel inouï. Et je termine avec mon dernier sujet, toujours dans La Croix l'Hebdo. En 2021, figurez-vous que la dette publique devrait atteindre 122% du PIB. Alors, je vois Liliane qui tombe de l'armoire, qui tombe seule. Eh bien, on croit rêver, effectivement, quand on voit le titre du dernier livre de Nathalie Sartou-Lajus, qui est rédactrice en chef adjointe de la revue Jésuite, Études, la revue donc Études. Le titre de ce livre, c'est « Éloge de la dette », paru aux presses universitaires de France. Car oui, affirme l'auteur, la dette n'a pas qu'un seul visage. L'économie n'est pas la seule lecture possible de ce fardeau qui, croit-on, nous enchaîne. Mais anthropologie, philosophie et même religion ont leur mot à dire. L'homme naît héritier et débiteur, rappelle Nathalie Sartou-Lajus. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu, dit saint Paul. On oublie effectivement que le désir de s'affranchir totalement de la dette est né avec la modernité, balayant la dette ancestrale et permanente entre vassal et seigneur ou maître et esclave dans l'Antiquité. Alors oui, dans un sens, il est formidable de se sentir libre de toute dette, rappelle la journaliste, mais, et là je la cite, le droit d'être soi et de jouir librement de sa vie est érigé en vertu cardinale. Ce que l'individu reçoit de la société est perçu comme un dû. Or, un équilibre est à trouver entre l'état ancestral de la dette permanente et la production d'individus désaffiliés appartenant à une société atomisée qui, loin de se trouver finalement libérée, sont désormais soumis à de nouvelles formes de domination. C'est un petit article passionnant qui relate un petit livre d'une centaine de pages dont je ne fais que lever le voile et qui se trouve dans La Croix l'Hebdo de cette semaine.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse des dettes, là?
Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, nous sommes endettés de toutes les manières. Donc,
Je vois venir Liliane. Allez, un petit mot du dossier culture de La Croix l'Hebdo qui décidément nous inspire beaucoup pour refermer cette revue de presse. Alors comme d'habitude, ce dossier culture, il est très riche, a retenu mon attention notamment un petit article signé Léa Pérez sur l'édition 2021 du festival Hors Piste organisé par le Centre Pompidou. C'est une édition bien sûr virtuelle. Le sujet choisi soulève de nombreuses questions très intéressantes. Peut-on imaginer une écologie des images? Alors, à ceux qui ne voient pas le rapport entre l'image et l'écologie, eh bien, Léa Pérez rappelle que le stockage et la diffusion des ressources visuelles quasiment illimitées de nos jours est très énergivore et que, contrairement à ce qui est mis en place pour les objets du quotidien, leur consommation et leur recyclage, eh bien, la prise de conscience en ce qui concerne le visuel tarde à venir. D'où ce sujet qui interpelle directement les spectateurs et les artistes et leur propose des exemples très concrets, comme celui d'un chorégraphe qui limite au maximum les décors et les costumes et qui prône le minimalisme, ou des réflexions de fond, comme celle de l'artiste allemande Ito Steyerl, qui dénonce la réduction du monde à une base de données vue comme une marchandise. Voilà de quoi nourrir l'inspiration des artistes réunis pour cette 16e édition. Alors rendez-vous sur le site centrepompidou.fr pour découvrir le festival Hors Piste 2021. Au programme, une exposition, il y a aussi beaucoup de films et de performances, le tout en ligne donc sur Internet, ce qui en soi alimente le sujet de réflexion choisi. Autre article très intéressant dans les pages culture de La Croix l'Hebdo numéro 67, celui signé Corinne Renoux-Nativelle, consacré aux dystopies au cinéma. La dystopie, c'est un genre plébiscité, surtout ces dernières années. Il s'agit d'anticipation pas franchement positive, qui dépeint des sociétés dans un futur proche, qui bascule dans un fonctionnement bureaucratique et surtout totalitaire, souvent avec la complicité passive de leurs citoyens. Alors il s'agit bien sûr de dénoncer les travers de nos sociétés actuelles et les risques qui pèsent sur elles, un message d'autant plus pertinent par les temps qui courent, où la frontière entre sécurité et liberté est souvent déplacée au gré des situations et parfois sans retour en arrière envisagé ou envisageable. Histoire de vous faire réfléchir et aussi, c'est vrai, de vous faire un petit peu peur, La Croix l'Hebdo vous propose une sélection de certaines des réalisations les plus réussies de ces 50 dernières années. Et oui, car la première suggestion est un film court culte de 1962, La Jetée, signé Chris Marker, en 28 minutes avec des images fixes en noir et blanc. Eh bien, il vous plonge dans la vie mouvementée d'un homme qui survit à la Troisième Guerre mondiale, forcément nucléaire, rappelez-vous, nous sommes dans les années 60. Une évocation entre suspense, effroi, nostalgie et poésie, c'est une vraie curiosité à découvrir si vous ne connaissez pas. Et puis ensuite, parmi les films sélectionnés par Corinne Renoux-Nativelle, on trouve Soleil Vert, un film de 1973 réalisé par Robert Fleischer avec un Charlton Heston plongeant dans une enquête en eau trouble dans une société nourrie avec des tablettes qui cachent un secret terrifiant. C'est l'un des meilleurs films du genre, une vision du pire qui met le doigt là où ça fait mal et qui propose une réflexion poussée sur ce que c'est d'être humain. Autre film mis en avant, Brésil de Terry Gilliam, qui est inspiré du 1984 de George Orwell. Bienvenue à Gattaca, autour de l'eugénisme de l'américain Andrew Niccol. Le baroque transpersonnage, adapté de la bande dessinée du même nom, dans lequel ce qui reste de l'humanité vit dans un train. Et enfin, l'étonnant Downsizing d'Alexander Payne, c'est un film de 2018 dans lequel le problème de la surpopulation trouve une solution inattendue, rétrécir les gens, dont le héros qui est interprété par Matt Damon. Voilà une belle brochette de films qui vont vous interpeller et certainement alimenter des réflexions très actuelles. Toutes les références sont à retrouver dans l'article de La Croix l'Hebdo numéro 67, signé Corinne Renoux-Nativelle. Bien voilà, c'est la fin de cette revue de presse chrétienne. On signale Liliane que, parce que Liliane me fait un petit signe, parce qu'il y a nos amis de la Procure à Chartres qui peuvent vous proposer certaines de ces revues, surtout les hors-séries, c'est ce que tu nous disais, Liliane.
Oui. Panorama, sûr, tous les mois, et puis les hors-séries de la vie, du pèlerin, tous les hors-séries.
Voilà, le mieux c'est de demander à Armel, voilà, à la procure. Voilà, on vous souhaite une très belle journée à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel et on vous retrouve très bientôt. Au revoir.
Au revoir.